Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Attention, sujet brûlant. Après un an de consultation, le gouvernement accouche de sa réforme de la fonction publique en Conseil des ministres aujourd'hui. Les syndicats ont déjà le couteau entre les dents. Explication dans un instant. La retraite à 82 ans pour Abdelaziz Bouteflika. Nous serons à Alger au lendemain de l'appel à la destitution du président par le chef de l'armée algérienne. Que vient-il faire à la deuxième place de la liste LREM pour les européennes? Question à votre invité dans 20 minutes, Nicolas.
Oui, l'écologiste Pascal Canfin dans le grand entretien de la matinale. Participez à cette interview 01 45 24 7000. Les réseaux sociaux et l'application mobile France Inter. J'attends toutes vos questions.
Le plastique, très peu pour nous aujourd'hui sur France Inter. Journée spéciale où l'on apprendra qu'hélas, on est encore loin de pouvoir recycler tous les plastiques. Avant un nouveau samedi de manifestation des Gilets jaunes, on verra que la barrière n'est pas étanche entre eux et les Black Blocs. Foot et homophobie, qu'en pensent les supporters? Et puis les pièces d'argent pour remonter le temps, c'est le pari de la monnaie de Paris.
France Inter.
Ça n'est pas la révolution, le gouvernement ne s'attaque pas au totem du statut des fonctionnaires, ils vont garder la sécurité de l'emploi, il n'y aura pas de plan de départ volontaire ni de rémunération au mérite, mais le projet de réforme de la fonction publique au Conseil des ministres aujourd'hui a tout pour hérisser les syndicats, eux qui défendent 5,5 millions d'agents farouches gardiens de leurs avantages. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Ce texte c'est un projet de flexibilité pour la fonction publique qui touche un certain nombre de tabous du secteur.
Oui, à commencer par un recours accru à des contractuels. Ils représentent déjà 20% des effectifs. Ils n'ont pas le statut de fonctionnaire. Les trois fonctions publiques d'État, territoriale et hospitalière en recruteront de plus en plus dans les prochaines années. Une brèche grandissante dans le système traditionnel de recrutement qui passe par les concours, mais un objectif assumé par le gouvernement de diversifier les profils et d'encourager les mobilités. C'est le deuxième axe de la réforme, la mobilité, avec des mesures pour accompagner les changements de poste à l'intérieur de la fonction publique, pour reclasser, voire détacher vers le privé certains agents en cas de suppression de poste. Là aussi, ça reste un point bloquant pour les syndicats. Des mesures inspirées du monde des entreprises seront expérimentées, comme la rupture conventionnelle pour les contractuels, expérimentation sur 5 ans à partir de l'année prochaine. Enfin, dernier sujet qui fâche, la fusion des instances de représentation du personnel. Gros chantier, jugé trop nombreuses par Bercy, et une moindre consultation des commissions paritaires sur les questions liées aux mutations.
Autre nouveauté, Fabien, le contrat de mission dont les syndicats disent qu'il sera moins protecteur que dans le privé.
Alors ce n'est ni un CDD ni un CDI, durée minimale 1 an, durée maximale 6 ans, le temps de mener une mission précise pour une collectivité locale ou une administration, réorganiser un service par exemple, ou encore travailler sur des projets liés à l'environnement ou à l'aménagement d'un territoire. Pas de prime de précarité, mais la possibilité d'une indemnité en cas de rupture anticipée. Des concessions loin d'être suffisantes aux yeux des partenaires sociaux, comme Mylène Jacquot pour la CFDT.
À l'issue de la mission, dès le projet achevé, le contrat prendrait fin, y compris de manière anticipée par rapport au terme qui aurait été annoncé au titulaire de ce contrat. Donc on instaure une forme de précarité qui a des répercussions sur le quotidien des gens qui seraient recrutés sur ce type de contrat.
Selon les syndicats de la fonction publique, le contrat de mission offre moins de garanties que les contrats similaires existants dans le privé, notamment les contrats de chantier dans le bâtiment ou la métallurgie, qui sont des CDI de chantier plus sécurisants, notamment lorsqu'il s'agit de contracter des emprunts auprès des banques.
Fabien Cazot, merci. Après son passage en Conseil des ministres, ce projet de loi doit être adopté par le Parlement d'ici la fin du mois de juin. 7 syndicats ont appelé à une journée nationale de grève le 9 mai. Il y aura déjà des rassemblements devant les préfectures aujourd'hui.
Il est 8h. 4, lui ne sera pas président à vie, ça se confirme.
Abdelaziz Bouteflika poussé vers la sortie par l'homme le plus puissant d'Algérie, le chef d'état-major de l'armée, le général Gaïd Salah, qui propose de le déclarer inapte à exercer le pouvoir du fait de sa maladie, ce qui ouvre potentiellement la voie à des élections dès cet été. C'est une surprise, mais pas de liesse dans les rues du pays. Bonjour Kaïna Nazir.
Bonjour.
Vous êtes à Alger pour France Inter et ceux que vous avez rencontrés ce matin restent extrêmement prudents sur la suite des événements.
Si hier soir on a entendu des klaxons dans les rues d'Alger, ce matin effectivement la joie laisse place à la vigilance, car oui, si une autre digue a cédé, pas n'importe laquelle, l'armée, la rue se méfie, comme Ali, agent de sécurité qui vient de finir sa nuit de travail.
Gaïd Salah, mais c'est l'un d'entre eux, il n'y a aucune confiance.
Jusqu'ici, il n'avait pas bougé. Il a attendu que le peuple crie, s'emporte. Il fallait qu'il réagisse dès le début. Ça reste de toute façon un allié de Bouteflika. Nous, ce qu'on veut, c'est des hommes neufs, ceux que le peuple aura choisis. Eux, ils restent entre eux. Eux, c'est-à-dire les hommes du système Kharpour Ali, même si l'article 102 est appliqué, les hommes du clan, ceux d'Abdelaziz Bouteflika, seront encore au pouvoir et ils jurent que les Algériens ne l'accepteront pas. Alors même si l'appel de l'armée à la destitution est une avancée pour les manifestants, ils restent prudents, la victoire n'est pas acquise. Les loups ne sont pas encore prêts à lâcher le peuple, ni à arrêter de s'abreuver de son sang, ajoute ce matin un chauffeur de taxi.
Alors le Conseil constitutionnel s'est réuni hier soir, c'est lui qui va donner le départ de la procédure de destitution. Va-t-il suivre le général, Kaina ?
Et oui, la question se pose car son président, Tayeb Belaï, 70 ans, est un fidèle d'Abdelaziz Bouteflika, idem à la tête du Sénat. Alors selon la procédure, le Conseil constitutionnel propose aux deux chambres du Parlement réunies de déclarer l'état d'empêchement à la majorité des deux tiers de ses membres. C'est ensuite le président du Conseil de la Nation qui se charge pour 45 jours d'assurer l'intérim du chef de l'État. Et si au bout de ces 45 jours, l'état d'empêchement se poursuit, il continuera alors son intérim pour 90 jours supplémentaires, période au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Kaina Nazir à Alger, où la place Maurice Audin sera sans doute encore noire de monde vendredi. Qu'en sera-t-il des Champs-Élysées samedi à Paris ? Des Gilets jaunes veulent y retourner. Un de leurs groupes vient d'en faire la demande à la préfecture. Ces Gilets jaunes signataires, comme ils se nomment, se sont réunis hier soir pour préparer leur journée. Certains ont des contacts, Yann Gallic, avec les Black Blocs qui saccagent tout sur leur passage.
Ils sont une vingtaine réunis dans le sous-sol d'un bar parisien, des gilets jaunes pacifiques qui revendiquent leur droit à manifester sur les Champs-Élysées. Sophie Tissier coordonne le groupe des gilets jaunes signataires.
On envoie par mail ce soir une déclaration de manif à la préfecture qui part sur les Champs-Élysées depuis l'Arc de Triomphe.
Mais ces gilets jaunes s'interrogent sur la stratégie à adopter, notamment face au Black Bloc.
Comprendre la colère de ceux qui veulent agir par d'autres moyens.
Moi, je suis pas d'accord pour qu'on affiche une collusion directe avec les Black Blocs, quoi.
Certains estiment qu'il faut dialoguer avec les Black Blocs et pourquoi pas manifester à leur côté. D'autres, comme Sophie Tissier, préfèrent au contraire prendre leur distance.
C'est vrai que ce sont des gens d'extrême gauche qui sont pour la plupart anticapitalistes. On a des choses en commun. Donc j'ai entamé des dialogues avec certains Black Blocs. L'accord entre guillemets qu'on a eu, c'est qu'ils nous laissent tranquilles sur nos manifs pacifiques déclarés. Et de temps en temps, ils nous disent « bah là, vous déclarez pas ». Après, moi, je réprouve leur mode d'action. Je considère que l'action violente, ça fait plutôt le jeu du gouvernement.
Si la préfecture maintient l'interdiction de se rassembler sur les Champs-Élysées, hypothèse la plus probable, les Gilets jaunes signataires manifesteront samedi entre la gare du Nord et le Trocadéro. Un parcours alternatif pour continuer à faire entendre leur voix.
Et c'est aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et sa collègue à la justice Nicole Belloubet seront entendus par la commission des lois sur les violences du samedi, il y a 10 jours, sur les Champs-Élysées. Comment arrêter une rumeur, celle du tzigane voleur d'enfants qui enfle sur les réseaux sociaux dans le nord de la région parisienne, comme la rumeur d'Orléans en son temps, les réseaux sociaux en plus. À Clichy-sous-Bois, à Bobigny, Villiers-le-Bel, des habitants s'attaquent à la communauté rome depuis lundi. 19 personnes ont été placées en garde à vue. Deux Roumains ont encore été agressés hier soir à Aulnay. Pourtant, il n'y a pas eu de tentative d'enlèvement ces derniers jours. La police et la justice sont formelles.
Il est 8h09, le plastique non merci. Journée spéciale sur France Inter.
Voilà. Ce fléau du plastique qui détruit la nature et qui est si difficile à recycler. On ne retraite que 26% des déchets ménagers plastiques en France, sachez-le. Et même si on triait comme il faut, Sandy Dauphin, les emballages ne sont pas tous recyclables.
Qu'est-ce qui rentre ici ? Eh ben, c'est le contenu de votre poubelle jaune, tout ce qui est emballage ménager.
Bouteilles, bidons, barquettes, sachets, tous les types d'emballages plastiques arrivent dans ce centre de tri du Blanc-Mesnil en région parisienne. Hugues Libaudière, directeur de cette usine Paprec.
La bouteille de boisson transparente peut redevenir de la bouteille, hein, sans problème. Les bouteilles colorées vont avoir des applications plutôt industrielles. Vous voyez, la laine polaire que j'ai, elle est faite en bouteille colorée. On peut refaire des intérieurs de voitures, des tapis de voitures, etc. Et puis avec tout ce qui est plutôt bouteilles de shampoing, bouteilles de lessive, on va refaire des canalisations.
Aujourd'hui, seules quelques familles de plastique sont recyclables. Or, il y a de plus en plus de résine sur le marché pour faire des emballages de différentes couleurs, de différentes textures. Christophe Vian, l'un des porte-parole de FEDEREC, la Fédération des entreprises de recyclage.
On lutte aujourd'hui contre effectivement ces nouveaux plastiques, on va dire marketing, qui arrivent. pour des motifs marketing, nous, ce qu'on dit, effectivement, c'est déjà posez-nous la question de savoir si le produit que vous allez fabriquer va être recyclable in fine. Deuxièmement, on n'a pas des centres de tri qui sont équipés pour trier 50 résines. On a des centres de tri qui sont équipés pour trier 4 résines, peut-être 6 à terme.
Les centres de tri ne sont pas équipés non plus pour gérer un nouveau plastique, soi-disant plus vert, le biosourcé, fabriqué à 100% en matière végétale, sauf qu'à ce jour, il n'a pas de filière de recyclage.
Tout, vous saurez tout sur le plastique et comment s'en passer sur franceinter.fr. Et faudra-t-il recycler les 737 MAX de Boeing 15 jours après le crash d'Addis Abeba alors que les appareils sont cloués au sol partout dans le monde? Un 737 MAX, un autre convoyé aux États-Unis, a dû se poser en urgence hier soir. Problème technique, Grégory Phillips.
C'est un Boeing 737 MAX de la compagnie Southwest qui a connu cette avarie. Ces appareils sont interdits de voler ici aux États-Unis depuis le 13 mars, sauf dans ce cas précis où l'avion devait être convoyé jusqu'en Californie pour y être entreposé. Mais juste après le décollage de Floride, le Boeing a rencontré un problème moteur. Il n'y avait évidemment pas de passagers à bord et l'équipage a fait demi-tour pour poser l'avion à Orlando peu de temps après. Cet incident est un mauvais signal pour Boeing, alors que tout à l'heure le constructeur américain doit présenter son plan de remise en service de ces avions 737 MAX 8 et 9 avec une modification du logiciel censé éviter les décrochages de l'appareil. La présentation aura lieu devant 200 pilotes, dirigeants de compagnie et régulateurs. C'est aujourd'hui également que le patron de la FAA doit être entendu par le Congrès. L'administrateur de l'aviation civile américaine devra dire dans quelles circonstances ces 737 MAX ont été certifiés par son bureau. À la veille de ces deux rendez-vous importants, l'incident d'Orlando est une mauvaise nouvelle pour le constructeur américain qui venait tout juste de reprendre ses essais en vol. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et toujours aux États-Unis, une première victoire contre les fabricants d'opioïdes. Un laboratoire pharmaceutique devra verser 270 millions de dollars de dommages à l'État de l'Oklahoma, qui subit comme ailleurs une explosion des overdoses liées à ces médicaments. Les labos sont accusés d'en avoir fait la promotion alors qu'ils en connaissaient les effets. Un grand procès aura lieu au mois de mai contre deux autres firmes. Et puis on ne plaisante pas avec la rougeole dans le comté de Rockland, au nord de New York. Tout mineur non vacciné est désormais mais interdit dans les lieux publics. Ils sont 30% des enfants qui ne sont pas vaccinés contre la rougeole, alors qu'une épidémie sévit là-bas, 150 cas recensés. À Londres, on va continuer à tourner en rond autour du Brexit aujourd'hui, à moins que Theresa May annonce sa démission en échange du vote de son accord de sortie, ce que croit savoir le journal Le Sun. Sinon, une série de votes est prévue au Parlement du no deal au second référendum, mais leurs résultats ne seront pas contraignants pour le gouvernement. Il y a les chants de supporters chaque semaine dans les stades de foot, pas très subtils, voire carrément homophobes, comme les propos de Patrice Evra sur les réseaux sociaux, voilà, qui agitent la planète foot cette semaine avec la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui s'indigne, et la présidente de la Ligue qui parle de folklore sans conséquence. Guillaume Batin en a parlé, lui, avec un supporter qui ne voit pas vraiment où est le problème.
Yann est célibataire, contrôleur à la SNCF. Depuis près de 20 ans, il parcourt les stades européens pour encourager son club de cœur, Manchester United. Mais c'est dans la tribune Boulogne du Parc des Princes qu'il commence sa vie de supporter à l'adolescence et à chanter des refrains aux paroles insultantes.
Oui, je peux pas dire le contraire. Je vais pas dire que je suis un saint. Je vais pas dire que je me suis jamais laissé entraîner par un chant, par des propos. Oui, effectivement, dans ce cas-là, tout le monde se fait flageller en place publique. Qui n'a pas débordé, n'est-ce pas, une fois dans sa vie sur des trucs?
Mais Yann n'est pas homophobe ni raciste. Il reconnaît avoir été pris dans le mouvement par l'effet de groupe.
De là à me faire passer pour un homophobe et compagnie. Non, effectivement, c'est un phénomène de groupe, c'est une émulation, bravo, on débranche le cerveau, voilà, ça permet d'oublier son quotidien. On vise pas une telle communauté, voilà, c'est les émotions qui prennent le dessus peut-être. De là à dire j'en suis fier, oui, avec du recul, on peut toujours se dire non, oui, effectivement, t'es un peu déconné, mais dans l'instantané, on est dedans, on se lâche. Oui.
Pour Yann, c'est donnant-donnant. Il faudrait accorder plus de liberté aux supporters dans leurs déplacements et sur l'utilisation encadrée des fumigènes, par exemple, pour espérer un changement de comportement dans les tribunes.
Et ben voilà, c'est Guillaume Batin, merci Guillaume. Enfin D'Artagnan, Louis XVI, Philippe le Bel, Nicolas, on connaît leur visage grâce à la peinture et grâce à la monnaie. Et on va pouvoir de nouveau toucher leur profil avec nos doigts. La Monnaie de Paris réédite 12 pièces d'argent, des reproductions, des deniers frappés à travers l'histoire. Cette histoire-là, Jacqueline Pétrose, est vieille de 12 siècles.
Échanger une simple pièce de monnaie, c'est un lien chaque jour entre nous. Mais on y pense moins, c'est aussi un lien avec notre histoire. Marc Schwartz, directeur de la Monnaie de Paris.
La Monnaie de Paris est la plus ancienne entreprise du monde, puisqu'elle a été créée en 864, il y a près de 12 siècles, par le petit-fils de Charlemagne. Et les pièces que nous éditons ont, depuis la nuit des temps, symbolisé l'histoire de notre pays.
Dagobert, la Déclaration des droits de l'homme, Bonaparte ou Jean le Bon, ces pièces ont une histoire précise, comme celle de Louis XVI.
C'est la pièce grâce à laquelle Louis XVI, au moment de la fuite du roi à Varennes, vous vous souvenez cet épisode marquant de la Révolution française, c'est cette pièce grâce à laquelle Louis XVI a été reconnu.
Joliment insérées dans un étui en carton avec l'effigie du personnage et un texte de Stéphane Bern, elles ont été reproduites avec art et minutie. Joachim Jiménez, directeur de la création de l'atelier gravure.
On les a moulées, on les a scannées avec une précision extrême et nous les avons retranscrites à cette dimension. Alors ça ne se fait pas tout seul. Il s'agit de refaire des coins, ce qu'on appelle des coins, ce sont les matrices, si vous voulez, les outils face-revers qui permettront de reproduire ces pièces. Et tout est repris effectivement à la main pour rendre le plus possible la fidélité de ces pièces.
Une collection sonnante et trébuchante pour revisiter les trésors de la Monnaie de Paris et réviser du même coup nos leçons d'histoire.
Alors voilà ces pièces, vous les trouverez dans des bureaux de tabac, les bureaux de poste, les maisons de la presse. Elles vous coûteront de 10 à 200 euros et chaque vente rapportera 1 euro à la Fondation du patrimoine.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Et encore quelques nuages.
Et oui, localisés, Nicolas, ce matin en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi des Pays de la Loire à la Normandie, à l'Île-de-France, jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Puis on a aussi quelques petites brumes près des Côtes d'Armor qui vont vite se dissiper. Et même si l'anticyclone regonfle, le ciel restera encore nuageux cet après-midi des Pays de la Loire aux Hauts-de-France, en passant par la région parisienne, comme ce matin. Partout ailleurs, votre matinée sera ensoleillée avec encore cette bise de nord, de la façade atlantique au centre, au Val-de-Saône, puis autour de la Méditerranée, du Roussillon au couloir rhodanien et en Corse, les rafales vont souffler à 70 km/h pour le Mistral et sur les extrémités de l'île de Beauté, puis il ne fait pas encore très chaud ce matin. Hein. À Rennes et Aurillac, contraste avec les 11 à Perpignan et les 12 à Calvi.
Mais peu de changements l'après-midi.
Voilà, juste encore hein, ces nuages des Pays de la Loire, Hauts-de-France, ailleurs soleil avec un ressenti un peu plus doux qu'hier. On va gagner 1-2 degrés comme à Rouen et Dunkerque avec 13. Avec sa petite escapade, eh bien le printemps revient. 14 à Paris, à Dol-de-Bretagne, à Montluçon, mais aussi à Clermont-Ferrand, Biarritz. Il fera 16 à Valence, 17 à Cognac, comme à Nice et Ajaccio, 18 à Toulouse, Marseille, comptez 20 à Perpignan et au Sainte-Marie-de-la-Mer.
Marie-Pierre Planchon, merci. 8h.